Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Elisabeth, rebonjour. Vous nous avez expliqué ce que peuvent être des usines pensionnat. Mais ma curiosité pose la question, comment s'y déroulait la vie dans ces usines pensionnat ou cloîtres, comme vous nous l'avez expliqué, cette vie.
Oui, cette vie. Alors, c'est toujours pareil, il faut bien repenser au contexte, c'est-à-dire, on a affaire à une main-d'œuvre qui vit dans le monde rural, qui a en lui-même déjà des travaux très durs. On peut imaginer des jeunes filles qui se lèvent très tôt, même en hiver, pour aller chercher des patates, des travaux de ruraux assez durs. Donc, l'usine, je ne vais pas dire que l'usine c'était super bien, mais ça offrait donc une possibilité de rapporter de l'argent sur dans un foyer rural. Donc c'était intéressant, très intéressant, parce que ça allait même on a poussé des enfants à aller, il y a des parents qui ont quand même poussé des enfants à aller travailler dans ces usines, même si ils étaient très jeunes, mais comme ils apportent, ça le parvenait, même s'ils étaient payés moins que les adultes, eh bien, c'était quand même de l'argent qui rentrait, et c'est parfois les propriétaires d'usines devaient même lutter contre les parents pour dire, à partir du moment où il y a eu des lois, pour dire non, on ne peut pas, quoi.
Est-ce que en même temps, c'était sous couvert d'apprentissage, parce que oui, ces personnes qui venaient du milieu rural avaient un élevage, faisaient de la culture, et tout à coup, on leur offre l'apprentissage d'un autre métier.
Oui, tout à fait. Et dans les périodes d'apprentissage, ils n'étaient pratiquement pas payés. Ils avaient simplement le gîte et le couvert, quoi. Voilà. Donc, ça prenait de 6 à parfois 2 ans. Il faut savoir que les différentes opérations du traitement d'une soie, selon qu'on est dans un moulinage ou si on est dans un tissage, eh bien, les doigts des enfants étaient toujours appréciés, parce qu'il y a une agilité dans les doigts des enfants qui favorisait la rapidité du travail. Mais en même temps, il fallait les former, et donc d'une manière ou d'une autre, ils étaient redevables, quoi, vis-à-vis de l'entreprise pour cette formation.
Et ils pouvaient monter en grade, c'est-à-dire que dépendant de leur spécificité dans le filage ou l'ourdissage, ça devenait un plus, et ils se voyaient monter et avoir quelques centimes en plus.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a deux types d'usines. Il y a le système vertical ou le système horizontal. Et le système vertical, c'est-à-dire que vous partiez carrément de la magnanerie, on fabriquait le fil de soie et on ourdissait, on le mettait
fuseau,
canette et tout ça. Voilà. Et Et ça, c'était le système vertical. Et puis, vous aviez un système d'usine qui, elle, fonctionnait avec de la matière qu'on lui apportait toute préparée. Voilà. Donc, après, les postes étaient différents. Voilà. C'était différent. Alors, on allait chercher... Il y avait peu d'hommes hein, dans les tissages dans les usines pensionnats. Il y avait ceux qui allaient chercher les ouvrières dans les campagnes avec ces chars à bancs, les galères. Il y avait ceux qui réparaient les métiers à tisser. Il y avait ceux qui s'occupaient éventuellement des chevaux si l'usine avait elle-même une écurie. Voilà, ceux qui... Mais le gros de la troupe, si je puis dire, c'était des jeunes ouvrières. Alors, ou des femmes avec parfois leurs enfants, d'où certaines usines qui ont créé des crèches pour les accueillir. C'était le cas à l'usine Schwarzenbach. Et puis, il y avait les ouvrières qu'on allait recruter un peu plus loin, donc j'ai dit en Savoie et même en Italie. Et puis, il y avait les demi-pensionnaires et il y avait les ouvrières qui restaient jusqu'à leur majorité parce qu'elles étaient orphelines. Alors, souvent, il n'y a pas de chiffres pour le dire, mais des orphelines qui parfois étaient des enfants qui avaient été conçus par des soyeux lyonnais, sur des ouvrières qui étaient sur Lyon, et qu'on confia des nourrices à la campagne. Et une fois que ces enfants grandissaient, eh bien, on les confiait à une usine de tissage et qui les gardait jusqu'à leur majorité.
Et la majorité était à 21 ans. Oui.
Et alors, il y avait un système de paiement dans ces usines qui était un peu particulier, pas forcément dans toutes d'ailleurs, mais où on donnait une partie de la comté, ça s'appelait, une partie de la comté, qui comprenait 5 semaines, et on vous payait ça 5 semaines après les 5 semaines effectuées. Ça s'appelait la comté. Et une partie était donnée à l'ouvrière, et une autre partie était gardée dans l'entreprise, réinvestie dans l'entreprise. J'ai l'impression d'avoir un langage un peu moderne pour, enfin, contemporain.
Oui,
pour
ça. Elles étaient sociétaires.
Voilà. Et donc, il y avait ce pécule. Et lorsqu'elles arrivaient à l'âge de la majorité, âge où elles pouvaient se marier, eh bien, on leur donnait, elles quittaient l'usine et on leur donnait ce pécule. Et donc, lorsque justement, avec Daniel Pelligrat, on travaillait sur les usines pensionnats, on est allé interviewer des gens et je me souviens d'une dame qui m'a dit... Moi, mon grand-père est allé chercher femme à la sortie d'une usine pensionnat parce que, justement, c'était des jeunes femmes qui étaient dures à la tâche, qui avaient appris le catéchisme, qui avaient appris tous les travaux ménagers, qui avaient une religion qu'elles pratiquaient, et qui avait ce petit pécule. Donc, c'était en quelque sorte des personnes intéressantes. Voilà.
Et puis, qui ont été éduquées, en plus de tout ce que vous venez de dire, elles étaient bien... Il y avait l'hygiène qui était là aussi.
Alors, c'était un peu variable selon les entreprises, justement.
D'accord.
Il y avait des ateliers qui... Bon, évidemment, ça a progressé. En particulier, je vais dire quelque chose qui est un petit peu... Mais quand on a inventé le crachoir, eh bien, ça a été une grande avancée par rapport à la tuberculose, justement. parce que voilà, il y avait c'était le fait de travailler la soie, ça sèche complètement. Enfin, c'est c'est quelque chose qui était pas facile à supporter. Voilà. Donc voilà, c'est je vous ai fait à peu près le portrait de tout le type de jeunes femmes qui pouvaient travailler là. Par rapport aux enfants, il y a eu des lois, et quand on en ferait avant ou après la loi, quand on ne voulait pas la respecter, eh bien, il arrivait qu'on cache des enfants quand le contrôle, quand l'inspecteur passait, eh bien, il arrivait qu'on cache des enfants dans des placards ou dans des ou dans le canal de dérivation, enfin, pour que les inspecteurs ne voient pas ces enfants qui étaient qui travaillaient pour pratiquement rien, quoi. Et donc, ces lois, eh bien, en 1841, là, on limite le travail des apprentis dans les établissements de plus de 20 personnes à 8 heures, entrecoupées de temps de repos pour les 8-12 ans. 8-12 ans.
Oui, oui.
Et à 12 heures pour les 12-16 ans. 12 heures. En 1870, la journée des adultes est à 14 heures. Et en 1874, se crée un corps d'inspecteurs. Et 1904, 10 heures devient la norme horaire du lundi au samedi. Et en 1919, on arrive à la semaine anglaise de 8 heures.
Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth, La vie dans les usines pensionnats. Et nous venons d'entendre de l'album Priors, un requiem de Gabriel Fauré. Je vous rappelle les dates 1845-1924 et la soprano Soumi Jo, accompagnée par l'orchestre philharmonique de Cologne, chantait ce requiem. Et nous avons en exergue « Vivre est une prière que seul l'amour peut exaucer » Romain Gary. Alors Elisabeth, continuons à explorer la vie dans les usines pensionnats. Et je pense que vous avez un exemple précis à nous dire et à nous en référence à cette vie.
Oui, alors sur Bourgoin, Nivola et Boussieu et Ruy, on a un exemple un petit peu particulier parce que à Boussieu, en septembre 1877, peu après l'ouverture de la fabrique, la direction demande de bénéficier de l'encadrement d'une communauté religieuse et sollicite la congrégation des Filles de Marie, sœurs de Sainte Philomène, dont la maison mère était à Saint-Marcellin. Puisqu'on a dit que les ouvrières étaient encadrées hors temps de travail, par des religieuses. Pendant le temps de travail, elles étaient encadrées par une contremaîtresse, mais hors temps de travail, par des religieuses. Or, cet ordre de Sainte Philomène se développe rapidement à travers plusieurs communautés, des hôpitaux, des hospices. Elles sont également appelées pour fonder des foyers accueillant des jeunes ouvrières des usines qui, à cette époque, prolifèrent. Donc, leur maison mère était à Saint-Marcellin. Et le 24 septembre 1877, les sœurs partent pour Boussieu. Un contingent de sœurs, pardon. Alors, nous retiendrons les années marquées par le dévouement de sœur Marie Perpétue. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut relier ça à une association que le père Rieffel avait monté pour s'occuper de jeunes personnes handicapées, sourdes, muettes. Et il a passé toute sa vie à essayer de leur procurer du travail. À cette époque-là, quand un enfant ou une personne était en situation de handicap, maintenant on a cette manière de parler des gens, mais c'était pas le cas à cette époque. Il n'y avait pas d'établissement spécialisé. Les gens allaient en asile psychiatrique, enfin à l'asile, quoi, voilà. Alors qu'ils n'étaient pas du tout déments, atteints de folie, mais voilà, ils étaient hors normes. Donc. Voilà. Et donc, le père Rieffel, qui était originaire d'Alsace, a passé sa vie à défendre ces personnes et à essayer de leur procurer du travail. Or, il a rencontré deux ouvrières qui étaient à Schwarzenbach. Et donc, il a décidé de rencontrer le directeur de l'usine, Monsieur Malheur, et d'essayer de voir s'il pouvait lui confier plus de personnes sourde muette, donc à cette époque on disait comme ça, sourde muette, pour travailler dans ses ateliers. Et Monsieur Malherbe a accepté. La famille Schwarzenbach et Auger, qui était une famille catholique, une famille protestante, mais qui était restée en bon terme après la vente de l'usine entre eux, eh bien ont décidé de comment dire, d'aller dans le sens de cette association, et ils ont pris plusieurs personnes sourdes-muettes. Alors évidemment, on revient sur la notion de paternalisme, ce n'était pas complètement désintéressé, parce que c'était des personnes qui étaient d'autant plus volontaires pour travailler, puisque autrement, elle n'avait pas de solution de vie décente, quoi. Oui. Donc, ça, il y en a eu pas mal, jusqu'à 63 personnes employées. Et donc, ces jeunes, il est allé encore plus loin. Il leur a construit la maison Saint-Antoine pour les abriter. Et puis, il a construit aussi la maison Saint-François pour recevoir les religieuses qui allaient s'occuper d'elles aussi. Alors, ces religieuses, elles ont... Donc, on a, dans ce quartier, si vous voulez, comme des religieuses sont restées assez longtemps et sont restées dans cette maison, eh bien, on a cette notion d'usine pensionnat plus vive dans ce quartier qu'ailleurs, parce qu'elles ont vraiment marqué ce quartier en lui donnant une identité tout à fait particulière. Alors, vous aviez en particulier, au moment où Sœur Marie Perpétue s'occupait de cette communauté de sœurs, il y avait donc Sœur Bernadette qui s'occupait de la broderie. Et la broderie, c'est pas rien parce que elle a fait, ses sœurs et ses personnes faisaient les trousseaux de nombreuses personnes qui vivaient dans ce quartier. Il y avait sœur Irénée et sœur Octavie qui encadraient des jeunes enfants de la garderie. Il y avait sœur Angéline qui, elle, s'occupait de l'intendance et de la cuisine. Sœur Henriette, qui, elle, s'occupait de la chapelle et des enfants de cœur. Et sœur Estelle, dite sœur Picure, qui, elle, faisait les courses, les soins à domicile et tout ça en triporteur. Donc, il y a des gens qui disent, oh, on la voyait prendre des virages avec son triporteur. Et ces personnes ont marqué ce quartier. La chapelle qu'on a appelée la chapelle de l'usine, qu'on a appelée la chapelle des Suisses, parce que c'était le nom qu'on lui avait donné, a organisé des cérémonies qui étaient d'un grand faste. L'usine avait procuré les habits sacerdotaux, tout ce qui servait à décorer la chapelle, qui était très grande. Une grande chapelle donc qui pouvait accueillir de nombreuses ouvrières, les sœurs, et qui par la suite a accueilli les familles, les mariages, les anciennes ouvrières sont venues se marier dans les... Voilà, c'était... Je trouve que c'est un très bon exemple d'une organisation industrielle qui a pu... comment dire, donner la teinte à tout le quartier, une atmosphère très particulière. Mais j'imagine que on a pu retrouver ça ailleurs aussi. Mais cette association qui a été créée d'ailleurs, il y a une convention que le père Rieffel a passée en 1897 et qui a été signée entre monsieur et madame Schwarzenbach et le père Rieffel, pour une œuvre pour les sourds-muettes, de procurer à la fabrique de M. Schwarzenbach des ouvrières stables et aux sourds-muettes les moyens d'existence, ainsi que la faculté de persévérer dans la vertu avec les avantages de la vie familiale. Le fait qu'elle soit en groupe avec Sœur Marie Perpétue connaissait la langue des signes. Et donc, dans la chapelle des Suisses, quand il y avait une cérémonie, elle se mettait au milieu de la nef, elle traduisait l'évangile en langue des signes pour les sourdes muettes.
C'est magnifique, ce côté.
Oui, il y avait une... Et puis c'était vraiment, une belle façon d'allier à la fois une religion protestante, la religion catholique, dans un but très particulier.
Il y a une conscience qui naît là, justement, pour une conscience humaniste pour ces enfants sourd-muet.
Oui, qui étaient des jeunes femmes, mais certaines sont restées assez... elles étaient encore assez âgées, elles ont vécu assez longtemps en groupe comme ça. Enfin, le père Yeffel est mort en 1914 et ses dernières volontés sont scellées dans le marbre, gravées dans le marbre, sur une stèle qui est dans la chapelle qu'il a fait construire. Une chapelle qui est très intéressante parce que elle a été agrandie en 1934 par l'architecte Monsieur Ribollet, architecte de Bourgoin, avec de très belles décorations. Donc, Sœur Marie Perpétue meurt le 27 février 1971. Ça sera Sœur Angéline qui, le 9 juillet 1971, va fermer les portes de la maison Saint-Antoine. Et la cité ouvrière de Boussieu s'était développée dès 1892 autour de l'usine Schwarzenbach. De nombreux logements et parcelles de jardins, la maison Saint-François réhabilitée en copropriété, la maison Saint-Antoine et sa chapelle, c'est le contraire, témoigne encore aujourd'hui d'une mémoire ouvrière qui confère à ce quartier une forte originalité. Alors, ça c'est le cas de Schwarzenbach, mais suivez le guide, peut vous conseiller d'aller...
Dites-nous.
Alors, sur Boussieu, il y a une autre usine pensionnat qui s'appelle l'usine Montrosier, qui est un peu plus petite, dont une partie a été détruite, même la maison du concierge aussi. Mais il reste effectivement la maison de maître avec la chapelle, mais qui est une propriété privée, donc on n'y rentre que dans le cadre des visites avec le musée. Et l'usine du fond, le bâtiment de tissage, c'est une usine de carrelage. Et derrière, il y a le canal de dérivation et la turbine, mais qui ne se visite pas. Donc l'usine Schwarzenbach de Boussieu, la maison et la chapelle. Et on peut voir aussi l'usine Giraudon à Saint-Siméon-de-Bressieux et l'usine Bonnet à Jujurieux, surtout dans l'Ain, près de Villefranche, où là, il y a des visites et où on peut se replonger de la même manière dans cet univers des usines pensionnats.
Nous avons, en vous écoutant, je repense à la Galicière où nous avons été ensemble et qui est une usine de moulinage de la soie et que l'on peut probablement visiter. Il faut voir sur le site, oui. La Galicière.
Voilà, la Galicière, il faut voir avec le site. Je sais que pour les journées du patrimoine, en général, ils sont ouverts. Et l'intérêt de la Galicière, c'est... les parties qui pouvaient correspondre à des lieux d'hébergement, je ne sais pas s'il y en reste, mais par contre, il y a un nombre de métiers dans leur jus, si je puis dire, qui est incroyable. Le site est très beau on voit vraiment les métiers
et deux
l'univers.
Usines, deux oui. usines, la famille coupée oui. en deux qui chacun gère son usine.
Oui, oui. Mais on a vraiment l'univers du travail.
Et c'est à Châtes, donc près de Saint-Marcellin. Voilà, merci beaucoup. Elisabeth, nous avons terminé notre promenade autour des usines pensionnats.
Je rajoute simplement qu'effectivement, le musée de Bourgoin-Jallieu organise régulièrement des guidages sur Boussieu, sur le thème des usines pensionnats. Donc, si des personnes sont intéressées, en général, il y a toujours beaucoup de monde, mais voilà, c'est toujours intéressant.
Merci beaucoup. Merci Elisabeth, merci Laurent.
Merci.
Et à bientôt.